Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de puissance maximale à l'écoute de ce nouveau numéro de Star Trek pour les nuls, le podcast. Nos cadets se sont lancés dans le triptyque Cannes. Bonjour Charles.
Cannes.
Je vois que ça va bien. Bonjour Renaud.
Salut à tous.
Toi aussi ça a l'air d'aller bien. Et bonjour Dragor, comment vas-tu?
Extrêmement bien.
Super. Cette fois, nous avons un invité un petit peu spécial, puisque nous avons pu recruter, entre guillemets, pour cette émission, un YouTuber que vous connaissez probablement, Sean, de la chaîne Trek on the Tube. Bonjour Sean et bienvenue.
Salut tout le monde.
Comment ça va?
Ouais, ça va.
Alors comme je le disais, Sean est YouTuber et nous reviendrons sur sa vie, son œuvre, lors d'une entrevue peut-être. On verra, on en discutera hors micro. Et moi, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. One small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Et j'ai raté le début. Avant toute chose, on va revenir sur Sean, comme je le disais tout à l'heure. Sean, tu tiens une, je sais pas si on dit aussi que l'on tient, mais tu gères une chaîne YouTube qui s'appelle Trek on the Tube. Est-ce que tu peux nous la présenter pour nos auditeurs et auditrices qui ne la connaissent pas?
Bouh, la honte, ils connaissent pas.
Ah, les cons. Oh, essentiellement, compte qu'il y avait beaucoup de chaînes Star Wars qui expliquait toutes sortes de choses sur le canon, sur les histoires Star Wars qui a eu au fur et à mesure des années. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait rien comme ça pour Star Trek. Il y avait des films de J.J. Abrams qui commençaient à avoir un petit peu de succès, vu qu'on avait la nouvelle série qui, à l'époque, était encore appelée Star Trek 2017, qui devait sortir. Je me suis dit que c'était le moment de faire une chaîne qui pourrait expliquer, on va dire, les choses simplement, encore fan de Star Trek. Sinon, les autres chaînes de Star Trek sont bien, c'est juste qu'elles sont toujours très complexes et s'en vont dans des espèces de détails que les nouveaux ne peuvent pas connaître ou peuvent pas suivre. Ma ouais, chaîne, puis je fais des vidéos sur les races, sur le canon générique de Star Trek. Quoi.
Mais c'est vrai que, enfin, je trouve que ton émission correspond bien au noob, en fait, à ce qu'on essaye de faire ici avec Star Trek pour les nuls. T'as une explication classique très facile d'écoute et bien présentée. Petit détail, la chaîne est en anglais, car tu es, alors c'est le moment de pas dire de bêtises, tu es néo-zélandais, c'est ça?
C'est ça.
Oui, j'ai pas fait mon erreur de la dernière fois. Néo-zélandais qui vit au Canada. Mais tu parles très bien le français, comme on peut l'entendre. Et nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous.
Non.
Avant de commencer, si on fait comme d'habitude, les amis, un petit tour de table, savoir quelles sont vos dernières geekeries du moment. Charles, qu'est-ce que tu fais actuellement, si tu as quelque chose à raconter?
Cette semaine, pas grand-chose de news. J'ai continué Shadow of Mordor. C'est à peu près tout. Voilà. Je suis en train de faire les jeux que j'ai achetés la dernière fois.
Ok. Et toi, Renaud?
Moi, ça va être surtout au niveau des séries. J'ai bien attaqué Westworld saison 2. Donc, il me reste les deux derniers épisodes. Je pense que c'est pas mal d'en parler aussi, mais peut-être pour se rapprocher un peu de Star Trek aussi, des thématiques abordées sur peut-être l'intelligence artificielle ou ce que peuvent créer les humains et jusqu'où leur folie peut aller pour peut-être mais pas arriver à l'immortalité, ce genre de choses. Donc série vraiment propre, très intéressante et super agréable à regarder, donc je la recommande fortement. Et sinon, petite pépite découverte sur Netflix récemment, mais qui existait déjà depuis un petit moment, c'est Last Man. C'est au départ une bande dessinée qui avait été créée par des Français, qui en gros raconte l'histoire de jeunes boxeurs un peu branleurs, qui à sa salle de gym, en fait, son prof va se faire tuer, et lui va enquêter un peu, savoir pourquoi il s'est fait tuer, et ça va partir dans un truc un peu fantastique, mais bien barré. Il y a 26 épisodes, il me semble, une seule saison, et franchement, gros kiff, donc je le recommande. Je sais pas si vous connaissez, autour de la table un peu.
J'en ai entendu parler quand c'est sorti. C'est sous format manga, non?
Oui, voilà. C'est donc bande dessinée un peu. Donc c'est ça pourrait être comme une sorte d'animé japonais, mais façon française.
Ok. Et Dragor, qu'as-tu à nous partager?
Mais j'ai reçu le jeu dont je parlais la dernière fois, là, Schiller, le jeu de NES.
Est-ce qu'il en fait une pendule? Oui, je l'ai déjà faite.
Oui, voilà, c'est ça. Et ça avait déjà fait rire personne la dernière fois. Alors c'est très rigolo parce qu'en fait c'est un jeu non officiel qui a été édité par une boîte australienne dont j'ai oublié le nom. Et comme ils voulaient que leur jeu soit pas zoné pour pouvoir vendre dans le monde entier, ils ont en fait ils ont fait des cassettes super bizarres avec un port à l'arrière et un espèce de coude, parce que sur la NES il faut on enfonce la cassette puis après on l'appuie. Et là, il y a le coude qui épouse la forme de ça pour que le connecteur reste derrière. Et en fait, tu branches dessus un jeu NES officiel et ça transmet le code de zonage à travers la cartouche du jeu. Ce qui fait que tu peux jouer sur des NES américaines ou européennes ou sur la Famicom, quoi. Voilà. Et sinon, ouais, c'est assez étonnant. Je m'attendais pas à ça parce que je m'étais pas énormément renseigné dessus. Et sinon, bah voilà, c'est rigolo, quoi. C'est du vieux jeu d'horreur super gore, mais avec des gros pixels, donc ça fait plus rire qu'autre chose. Et puis voilà, c'est fun, quoi. Il y a 4 niveaux et il y en a un à débloquer en détruisant tous les bonus. Et en fait, tant que t'as pas à débloquer le dernier niveau, ça tourne en boucle. C'est-à-dire que tu fais les 4, puis tu reviens au 1, et ainsi de suite. Et voilà. Ouais, c'est rigolo. C'est histoire de changer du tir au pigeon, enfin du tir au canard avec le pistolet, quoi. Ça fait un peu plus. Voilà, c'est ça.
Et toi, Sean, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager?
Oh, récemment, j'ai fini la 3e saison de The Expanse, qui est pour moi la meilleure série de science-fiction qui existe actuellement. Tous de regarder ça.
J'en suis qu'à la saison 2, moi. Ouais, j'avance pas.
J'ai vu que la saison 1, mais j'ai pas accroché plus que ça.
Pourtant, genre, c'est le réalisme de la série par rapport à ce qui va nous arriver, nous, à l'exploration qu'on va faire dans quelques années. Enfin, je pense ce qui va se passer. Et au niveau de la technologie, tous les scientifiques puis les ingénieurs qui en parlent sur Internet ont l'air de dire que pas l'exact.
Ouais. Moi, j'avais bien accroché. C'est juste que je manque de temps et du coup, j'arrive pas à regarder plus que ça. Donc, quand j'ai une minute, je la regarde, mais j'ai tellement de choses à faire. Mais j'aime beaucoup également The Expanse.
Ça passe où, ça? C'est AMC, Netflix? C'est quoi, comme
c'est Netflix. Ouais, c'était Sci-Fi pendant 3 ans. Donc, du coup, c'était Netflix internationalement, donc en France. Mais ça s'est fait cancel de Sci-Fi récemment, puis ramassé par Amazon Prime. Donc, du coup, je sais pas si Netflix va le garder ou s'il y a Amazon en France aussi.
Et c'est le moment où je suis super heureux parce que j'ai un compte Netflix. Et en fait, Amazon m'a envoyé une lettre en me disant que j'avais fait tellement d'achats que j'avais un compte Amazon Prime. Du coup,
voilà,
j'ai un compte.
J'ai fini aussi la saison 2 de Westworld.
Ah, no spoil.
Dis rien. Je préfère largement la saison 1 à la saison 2.
Ouais, je comprends.
Baisse de qualité.
Disons qu'après... C'est
énorme, mais ça reste une série... Comment dire, la plus mauvaise saison de Westworld est quand même supérieure à... J'imagine n'importe quelle série que vous pourriez me dire, donc.
Après, disons, que c'est la saison 2, c'est dans la continuité, ouais. Voilà, c'est, comment dire.
J'ai juste l'impression qu'ils avaient moins à dire. Moins de choses à raconter.
Ouais.
Ok.
Après, c'est plus de l'action, voilà, c'est, ouais. Bon, on en parlera une autre fois.
Non, c'est très bien, non, allez-y.
Faisons une émission sur Westworld.
Westworld pour les nuls.
Pour les nuls. Oh mon dieu.
Moi, je veux bien faire le cadet.
Je pense sincèrement que tout le monde est cadet quand il s'agit de Westworld. La série est tellement intelligente.
Il faudra voir. J'ai pas regardé encore. Bon, je vous propose que l'on commence.
Oui.
Eh bien, la dernière fois.
Ah, Rémi, tu nous as pas parlé de tes petites découvertes à toi.
Oui. Geekry, j'ai rien de spécial. Si, j'ai regardé, alors pour ceux qui me connaissent, je suis fan de catch. Mais j'en ai pas honte. Et j'ai regardé le dernier event de la WWE. Extreme Rules. C'était nul. Voilà. On parle de Star Trek maintenant. Non, il y a une énorme baisse de qualité depuis 6 mois. C'est horrible depuis les environs de WrestleMania. C'est devenu très mauvais à la WWE. Alors qu'à côté de ça, ben la NJPW, donc la New Japan Pro Wrestling, explose et c'est génial. Donc pour nos auditeurs et auditrices qui regardent le catch, ne regardez pas la WWE, regardez la NJPW. Et voilà. Allez, on commence. La dernière fois, c'est Charles qui nous a raconté l'histoire de Space Seed. Alors, est-ce que cette fois, Renaud a envie de nous faire la présentation de Wrath of Cain? Ah, ça sent l'envie, là.
Non, non, oui, oui.
Ton résumé, soupir, ça. Ton soupir me faisait énormément penser au soupir de l'elfe dans le donjon de Hulbuck.
Oui.
Je suis désolé.
Oui, c'est très vrai.
Non, mais s'il faut y aller, faut y aller. Là, comme je te disais, l'ami, c'est vrai que hier, après l'avoir vu, ouais, je savais pas trop comment l'aborder, même au niveau du résumé, mais c'est bon, je me suis repris. On va y arriver. Voilà.
Il n'y a pas de raison.
On t'aidera au pire.
Oui, voilà. Si vous sentez que je m'évanouis, n'hésitez pas. Continuez sans moi. Non, après, donc, Star Trek 2, La Colère de Khan, réalisé en 1982 par Nicolas Meyer. Donc le film commence et démarre avec l'USS Enterprise qui reçoit en fait un appel de détresse de la part d'un vaisseau qui s'appelle le Kobayashi Maru. Donc très rapidement, bon, pour les connaisseurs, même nous, je pense noob, on a très vite compris donc que tout ceci n'était qu'un test qui en fait était réalisé sur le lieutenant Savik, une femme donc qui était directement testée, évaluée par l'amiral Kirk, qui désormais en fait a un métier plutôt de tout ce qui est supervision, un peu contrôle, voire inspection. Hein. Et donc le film se lance en fait sur ce test que bien entendu elle ne réussit pas, vu qu'il y a seulement Kirk au départ qui l'avait réussi. Et donc on découvre un peu l'équipage, on découvre que c'est Spock donc qui tient un peu sous son aile ce lieutenant, Savik. Et directement, après, on repart sur Kirk, car il arrive, en fait, à son 49e anniversaire, pas encore 50e, il me semble. C'est bien ça?
Je me souviens pas du tout.
Merci de gérer cette émission, Rémi. C'est pour tes efforts.
les commandeurs sont là pour ça.
Hein. Alors, malheureusement, franchement, l'âge du capitaine, c'est pas un truc qui me passionne, donc j'ai pas du tout retenu non plus, quoi.
Comme... Non, j'ai jamais fait attention à sa date d'anniversaire. Elle a une face de plus que 50, honnêtement, mais...
Oui, carrément. Donc, à partir de là, en fait, on découvre que Kirk, mais qui arrive, allez, on va dire, à ses 70 ans, physique, en fait, est un peu nostalgique et un peu peur, en fait, d'avoir terminé cette époque, ses aventures et ses découvertes lorsqu'il était, directement, eh bien, au poste à l'Enterprise. Et il craint, disons, pas trop pour son futur, mais plutôt à cause de son âge, d'être passé à côté de beaucoup de choses, ou en tout cas que tout ça soit désormais derrière lui. Ça nous permet aussi de retrouver, on va dire, tout ce qui faisait son équipage et ses amis, ses collègues, notamment voilà tout ce qui est Spock et le docteur McCoy.
Juste attends, parce que vous, les cadets, vous n'aviez pas... Bon, vous aviez pas vu le film précédent, mais ça vous a pas fait... ça vous a peut-être un peu surpris de voir des acteurs qui avaient pris un coup de vieux comme ça?
Pas qu'un peu.
Et puis quelqu'un qui... Enfin, comme... en fait, c'est pas William Shatner qui joue, c'est la personne qui a mangé William Shatner qui joue.
C'est pas gentil.
ça va en s'empirant.
Non, tu vois, après, ouais, personnellement, ça m'a pas trop choqué du fait qu'en fait, on avait vu les autres séries précédentes et que on suivait d'autres personnages, même d'avoir vu avec peut-être le film de J.J. Abrams à... Comment? Ben un Spock vieillissant, au final, c'est de retrouver ces personnages. Ouais, c'est pas forcément. Enfin, moi, j'ai pas été forcément surpris, tu vois. Même sans savoir ce que le film allait traiter. Enfin, juste Khan, en tout cas. Mais non, pas surpris.
Ok, non, mais y a pas de souci. Je t'en prie, continue.
Alors la scène suivante, là, on suit l'USS Reliant, il me semble, en fait, qui est à la recherche d'une planète sans vie afin d'y réaliser une sorte d'expérience. Donc cette expérience, on apprendra plus tard en fait qu'il s'agit d'un projet qui porte le nom de Genèse. À l'intérieur de ce vaisseau, on suit un personnage récurrent de l'univers de Star Trek qu'on connaît. Donc c'est Pavel Tchekov, qui est la commander et qui en fait va se rendre sur une planète donc où il n'y aurait pas de signe de vie, afin donc de faire leur recherche, et donc il s'y rend avec le capitaine Terrell. Et rapidement en fait ils vont percevoir des signes de vie, notamment en fait une sorte d'habitation, une partie d'un cockpit ou d'un ancien vaisseau, qui va très rapidement en fait alerter Chekhov, parce qu'en fait il va voir écrit sur le nom du vaisseau le Botany Bay. Donc très rapidement voilà, on comprend qu'en effet eh bien, c'était l'équipage de Khan qui avait été abandonné sur cette planète, qui est Alpha 5. Et en fait, ils ont confondu avec la planète Alpha 6, l'équipage, parce que c'est une planète qui a été détruite, en fait. Et par sa destruction, elle a décimé là aussi Alpha 5. Donc il n'y a plus de signes de vie, à part des sortes de parasites, des sortes de gros vers, en fait, qui vivent dans le sable, en fait, qui sont responsables de la mort d'une grande partie, en fait, de l'équipage de Khan, notamment de sa femme, donc personnage qu'on avait vu sur un des épisodes de Star Trek, voilà, qu'on avait dû voir précédemment. Et en revoyant ces personnages-là, enfin en découvrant ces personnages, et en se présentant, Khan comprend qu'en fait, Kirk est toujours vivant, qu'il est même désormais amiral. Et là donc va ressortir chez lui cette soif de vengeance en fait, et il va vouloir qu'une seule chose, eh bien se venger, en tout cas de ce qu'a pu lui faire Kirk.
Ok. Termine vite fait l'histoire, comme ça, même si on spoil la fin, c'est pas grave. Comme ça, après, on revient directement sur nos ressentis par rapport à ce film.
Et donc, ils vont, pour faire rapide, il va y avoir un face-à-face, en fait, entre Khan et Kirk, qui vont entrer en conflit, donc, une sorte de combat spatial à travers les vaisseaux. Khan va profiter de tout ça, en fait, pour réussir à récupérer cette arme atomique, Et il va la récupérer donc directement dans le vaisseau en laissant Kirk et son équipage seuls sur Regula. C'est sur Regula One, il me semble.
Oui, c'est ça. En fait, c'est sur Regula One qu'il la récupère. Parce qu'elle était sur la planète.
Et donc en fait, Kirk et Spock ont fait croire d'une certaine manière à Khan qui avait une sorte de délai, de distance entre eux. Donc Khan pense être défait de Kirk, qui n'a plus de soucis à avoir avec lui. Cependant, ils réussissent à le rattraper. Et en fait, en poussant à bout la colère de Khan et en essayant de faire en sorte d'appuyer sa soif de vengeance, ils vont l'amener dans une sorte de tempête cosmique, un peu, pour pouvoir l'attaquer, en fait, et le détruire. Chose qui va se passer, et où Khan, au dernier moment, va activer cette arme atomique pour essayer de décimer tout le monde, donc en même temps que sa mort, pour aller jusqu'au bout de sa vengeance. Hein. Malheureusement, Spock va décider en fait de secourir tout l'équipage en se sacrifiant, donc en réactivant en fait les sortes de boosters du vaisseau pour que l'équipage puisse s'enfuir.
Et Spock meurt.
Et voilà, après dernier plan, on voit justement la nouvelle planète, donc verdoyante, qui apparaît avec au milieu le cercueil de Spock.
Ok, ben merci beaucoup pour ce résumé, Renaud. Qu'est-ce que... Ben Charles, tiens, on va commencer à l'inverse. Charles, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
Alors, moi, personnellement, j'ai bien aimé. Pour un film en lui-même, après, il y a quand même pas mal de petites erreurs qui m'ont sorti à des moments, petits trucs à chaque fois, on va en parler, mais qui m'ont fait « Ah, c'est un peu gros, quand même. » Mais sinon, l'histoire se suit... C'est très sympa, le coup que Kirk et Spock parlaient en langage codé pour faire croire à Khan qu'ils étaient en mauvaise posture et tout ça, alors que pas du tout. Voilà, il y a vraiment des bons petits moments.
Et toi, Renaud ?
Ouais, comme j'ai dit, un peu mitigé. J'ai plus vu, en fait, ce film comme une sorte de gros épisode de série, pas en tant que quasiment que film. Je sais pas si... Voilà, je suis assez clair. En fait, le point fort de Star Trek, c'est justement toutes les questions qu'il pose, les remises en question, les thématiques abordées. Là, c'était davantage poussé par l'action. Après, en cherchant des notes, ouais, j'ai pu voir que peut-être c'était ce qui était reproché au premier film. Peut-être ils ont voulu développer ça en prenant un personnage peut-être important comme Khan. Après, voilà, comme tu le sais, j'avais eu un peu de mal avec ce personnage. Je me suis dit que peut-être il avait évolué. Il prend en puissance, en importance. Après, je trouve certaines choses dommages. On met pas en avant sa force physique, juste sur une scène. Et le fait qu'il n'y ait pas de réel face-à-face, je veux dire vraiment à proximité entre Khan et Kirk, J'aurais aimé voir ça plus que.
Ah mais moi c'est un truc que je trouve génial moi ça justement qui se voit jamais dans du film.
Ça fait très combat d'échecs. En fait.
Exactement.
Ouais mais bon. Ouais moi je trouve il manque ce petit face à face. C'est un peu comme dans les James Bond entre James Bond et le méchant tu vois pour te rendre compte parce que tu justement en plus avec le personnage de Kirk on aurait pu se dire avec l'âge qu'il a justement on aurait pu avoir ce reflet intéressant de Khan qui physiquement peut-être plus vieux. Notamment plus vieux, mais physiquement à la même force, justement qu'il puisse le détruire physiquement un peu ou montrer que ben toi tu vieillis, moi je suis toujours là. Mais pas forcément voilà de combat ou ce genre de choses, mais peut-être l'appuyer justement vu que c'est quelque chose auquel Kirk qui touche Kirk directement voilà de vieillir justement et d'être passé sa vie et d'en avoir quasiment peut-être terminé avec tout ça ses aventures.
Moi j'ai noté pas mal de trucs assez pas négatifs mais c'est pas mon film favori de la lignée.
Si.
Enfin, oui, vas-y, Sean, qu'est-ce que tu disais?
Oh, je dis merci.
Ah oui,
merci d'avoir dit ça.
Non, moi c'est, c'est le de tous les films, je trouve que c'est un peu le moins bon en fait même.
Il ah oui, quand même.
Très très bon. Ben, enfin, de tous les films DOS. Ouais.
D'accord.
Il a des dialogues excellents. Vraiment, tout le long, du début à la fin, je trouve les dialogues, les échanges entre les personnages vraiment très très bons. Mais, je sais pas, il y a plein de petites erreurs très étranges. Une erreur de continuité bête, qui m'a surpris. À la fin, quand Khan... pas à la fin, mais au milieu, je crois. Khan balance à Kirk, est-ce que tu connais ce proverbe klingon, la vengeance est un plat qui se mange froid.
Oui, excellent.
Bon déjà alors, je trouve bizarre que les Klingons aient ce proverbe qui enfin bon c'est pas un proverbe Klingon quoi et comment fait Khan pour connaître les Klingons
ben il a bouffé toutes les bases de données de l'Enterprise dans Space Seed il a tout lu à une c'est dans Space Seed ils en parlent ça les surprend la quantité d'informations qu'il a ingurgité c'est le genre d'information qui peut très bien être dans l'ordinateur enfin moi quand j'ai vu ça j'ai de suite pensé à ça donc ça m'a pas gêné
ça reste que le type a vécu sur Terre durant les années 90 pendant je sais pas combien d'années il était comme genre un dictateur sur Terre l'expression vient de la Terre et devrait savoir c'est juste un peu bizarre qu'il balance ça
par contre ça dans ce sens là c'est pas faux ouais.
Ouf la moitié de leur nourriture comme crue qui fait que c'est même pas un truc qui s'applique à eux, ils mangent ni chaud ni froid, ils mangent vivante. C'est un peu particulier qu'ils aient choisi de...
Ou alors c'est une blague et personne l'a compris.
Ouais. Après c'est le seul film, je crois, où il n'y a pas de Klingon dedans, donc il fallait en caler.
Je me loue, mais...
non, après par contre, l'ambiance du début, je sais pas comment vous l'avez trouvé, mais tout le début jusqu'à... Ben jusqu'à l'annonce de Tchekov comme quoi il revient sur la station jusqu'à ce moment-là je trouve que l'ambiance est super bien elle est enfin j'aime beaucoup c'est très calme hyper psychologique on a une exploration du Botany Bay d'ailleurs peut-être j'ai l'impression que Pitch Black a repris un peu des passages de ça parce que il y a pas mal de trucs qui m'y ont fait penser et même comme je disais les dialogues de Kirk avec tout le monde en fait tous les dialogues étaient super bons enfin j'aime beaucoup le début de ce film par contre qu'est-ce que c'est ces scanners à la con qui sont incapables de détecter 20 types bien vivants dans un dessert
ça c'est clair.
J'ai un commentaire que j'ai l'habitude de dire quand on parle de Wrath of Khan, mais aussi de Star Trek VI, The Undiscovered Country. Je sais que vous l'avez peut-être pas vu encore, mais je vais quand même le dire. Je pense que ça peut aider cette conversation. C'est quelqu'un qui n'était pas fan de Star Trek. Ça veut pas dire qu'il fait des films mauvais. Ça veut pas dire que les films Star Trek qu'il fait sont mauvais. Ça veut juste dire que des fois, qu'il ne colle pas à l'univers de Star Trek. Il y a une fameuse scène dans Star Trek VI où ils sont tous à la recherche d'une chaussure qui a une tache de sang. Ils pourraient juste un scanner dans leur vaisseau, mais ils le font pas. Et tout l'équipage est obligé de chercher à la main, c'est ridicule. Alors qu'ils sont pas mal similaires dans Star Trek II, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que c'est juste parce que Nicholas Meyer, pour faire avancer son plot, pour faire avancer son histoire à lui, des libertés ou peut-être négliger des faits qui existent ou qui seraient à utiliser dans l'univers de Star Trek.
Mais d'ailleurs, quand Khan est face aux deux personnages dont Tchekov, mais Tchekov, il est pas censé avoir rencontré Khan normalement, non?
Techniquement sur le vaisseau.
Alors ouais. Là-dessus, c'est un truc qui revient très souvent. Avant d'être affecté à la passerelle de l'Enterprise, c'est-à-dire quand on commence à le voir dans la série, quel est l'endroit le plus logique où devait être Tchekhov?
Au-dessus de la cheminée avec le fusil.
Il était forcément sur l'Enterprise. C'est un grand vaisseau. Il y a 500 membres d'équipage. C'est pas parce qu'on le voit pas dans l'épisode qu'il était pas sur l'Enterprise à ce moment-là et que Khan n'a pas pu le croiser hors champ.
D'accord. Mais il fait partie de cette génération de la saison 1. Il apparaît après dans la saison 1, c'est ça?
Il apparaît dans la saison 2.
L'acteur, si tu veux, apparaît dans la saison 2. Mais bon, ça, c'est une information extérieure. On sait qu'il était pas recruté à ce moment-là, mais dans l'univers interne de Star Trek, la logique, c'est qu'un officier, avant de monter en grade sur un vaisseau, il y a des chances qu'il était là avant, quoi.
Dans des comics, puis dans des livres qui sont pas canon, je tiens à préciser, mais ça a été établi puis étoffé que Tchekhov faisait partie comme du Night Watch. Il était là, il s'occupait de tout ce qui se passait la nuit sur le vaisseau. Donc du coup, Khan l'aurait croisé là-dedans. Ils expliquent qu'ils se sont croisés. C'est pas canon tout ça. Pour la continuité, la majorité du fandom accepte que Tchekhov était sur le vaisseau, que Tchekhov ait croisé Khan. Et c'est pour ça que Khan lui dit qu'il se souvient toujours de tous les visages, il n'oublierait jamais le visage de Tchekhov, il se rappelle même de son nom.
Après, on peut même le prendre dans l'autre sens, c'est juste un moyen d'expliquer aux spectateurs que justement Tchekhov était dans le vaisseau avant qu'on le voit apparaître dans la série.
Et on peut s'en servir dans ce sens-là. La réalité de la chose, c'est que c'est pas Nicholas Meyer, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit Wrath of Khan. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Et The Wrath of Khan, et qui est reparti regarder tous les épisodes de la série originale of Bennett. Il est parti regarder tous les épisodes de la série originale, que Khan était génial, et donc du coup, il s'en est servi pour écrire le film. Évidemment, même si Tchekhov était pas là dans l'épisode, il faisait partie du cast au film, ils sont obligés de s'en servir. C'est juste qu'ils auraient peut-être pu s'en servir différemment et mettre quelqu'un d'autre sur la planète plutôt que lui.
Oui, après, ça permettait aussi peut-être de faire en sorte que Khan... Que t'aies l'expression peut-être d'un personnage en effet qui a vu ce que pouvait faire Khan, et que Khan en profite pour refaire un monologue où il synthétise « Oui, à l'époque, j'avais fait ça, pour ça que je déteste Kirk. » Il appuyait sur le fait que sa femme, qu'on avait vue dans la série meurt, voilà, c'est comme on a dit, c'est une facilité scénaristique pour permettre de résumer un épisode que les gens n'ont pas vu.
Ouais, c'est bien vu ça, effectivement, parce que comme il était sur le vaisseau, mais il a pas forcément assisté aux événements... En détail, c'est bien vu ça. Je sais pas si c'était fait exprès, mais ça colle bien.
Smaya, quand on lui a parlé des erreurs, on va dire multiples, même si ça reste quand même des détails, dans Wrath of Khan, a tout simplement, il s'est défendu en parlant de Sherlock. Il a parlé du fait que, comment il s'appelle celui qui écrivait Sherlock là? J'ai pas vu de son nom.
Je l'ai plus en tête non plus. Ah, c'est la honte quand même. Merde.
Bref, il disait que Sir Arthur Conan Doyle, il disait que Sir Arthur Conan Doyle faisait des erreurs aussi. Il y avait aussi des problèmes de continuité dans toutes ces histoires de Sherlock Holmes qu'il a écrit. Et Nicholas Meyer juste dit, écoute, il y a des erreurs, c'est tout, tu sais.
Je trouve que c'est une bonne
réponse. C'est un peu facile comme excuse, moi, je trouve. C'est parce que Sherlock Holmes, c'est pas un univers.
C'est un peu comme James Bond, en fait. James Bond, ça suit. Il y a rien qui se suit, en fait.
Bon, après, pour sa défense, c'est vrai que Star Trek, à l'époque, s'il y avait juste 3 saisons et un film, donc même s'il y avait un univers qui était là, il n'était pas aussi important que ce qu'il est devenu après. Donc, effectivement, ça peut se comprendre quand même.
Qu'est-ce que vous avez pensé, les cadets, de la SF de manière générale dans ce film? Je veux dire le projet Genesis, les vaisseaux. Est-ce que vous avez trouvé ça important, sympa, mauvais?
Alors au niveau de la terraformation, j'ai trouvé ça sympa, l'histoire de voilà, en gros c'était une bombe et ça ravageait tout quoi. Là après bon ça pose quand même quelques problèmes du comment ça marche ce système, mais bon ça c'est encore on dit ok ça marche, voilà, on n'en parle plus. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est le combat dans ce qu'ils appellent la nébuleuse, où il y a quasiment pas de bruit, en fait, et quasiment pas de son, et on est vraiment sur une partie d'échec de 2 joueurs qui se regardent et qui essaient de bluffer l'autre. Ça, j'ai vraiment aimé ce passage-là.
Ouais, c'est une des forces du film. T'es pas le seul à avoir aimé ce passage-là. C'est un peu ça qui a marqué les gens, je pense, dans ce film à l'époque de sa sortie.
C'est vrai que c'est très bien vu. Je sais plus si c'est dans le Star Trek de 2009 de J.J. Abrams aussi où t'as ça. Là, c'est de cette finale où justement t'as la tension finale. Justement, mettre un silence de mort. Et par rapport au visuel, c'est ça, l'esthétique, c'est Nebula, je crois, la tempête ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ce calme, ce silence mais par rapport au danger qui se trame, c'est vrai qu'elle est, elle est marquante, cette scène, ouais, elle est super bien faite.
Ok, n'hésitez pas à rebondir, les commandeurs, alors allez titiller, vous êtes là pour ça. Un petit mot sur David Marcus, on n'en a pas parlé. Vous aviez deviné que c'était le fils de Kirk ?
Pas du tout.
Du tout.
Et on s'en fout.
Ouais.
C'est mal amené, en fait. C'est hyper mal amené.
Je suis pas sûr que l'objectif était d'en faire une surprise, de toute façon. C'était pas forcément l'intérêt, quoi.
De toute façon, vu qu'il est avec les bouclettes qu'il a sur la tête, tu te dis de suite, c'est le fils de Kirk.
Moi, je pensais qu'il allait pécho sa mère. Je croyais que c'était le copain, en fait, de l'ancienne copine de Kirk, justement. J'étais là, mais il est jaloux de Kirk, il veut se la pécho, qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand j'avais pris à la fin que c'était son fils, j'ai fait, ah.
Mais il arrête pas de l'appeler maman tout le long du...
Ah ouais?
Non. Quand même.
Tu l'as vu en VO ou en VF?
En VO sous-titré.
Ah ouais. Ben ouais.
Bon, après, ouais, c'est possible, écoute, peut-être que là. C'est nous qui interprétons mal, peut-être que c'était son but, mais j'en doute quand même.
Je vais revoir les relations avec ma mère, je pense. Il y a un petit souci par là. Mais je trouvais que c'était mal à porter. C'est comme le personnage de Savick. On sait pas s'ils veulent traiter ce personnage ou il est juste traité en surface. T'as l'impression qu'ils veulent le développer, mais qu'il développe pas. Enfin, je trouvais qu'à certains moments, il y a même un moment. Ah oui, après là, une bataille, t'as un du vaisseau qui rapporte un garçon dans ses bras, et tout l'équipage regarde ce corps. On se dit, mais c'est, enfin, ils vont pas regarder ce corps parce qu'il y a quelqu'un de mort. Ils ont l'habitude, je veux dire. Et tu te dis, mais c'est quel personnage qui est touché? Et après, quand tu te rends compte, c'est le jeune. T'es là, mais attends, mais c'est qui ce type? Il est censé être important. Faut avoir vu les séries. Qu'est-ce qui se
passe? Alors ça, c'est un des grands regrets de Nicolas Meyer. Il s'est battu pour ça, mais il a pas eu gain de cause. En fait, c'est le fils de Scotty.
C'est son neveu.
Son neveu. Et la scène a été coupée au montage. La scène où on apprend que c'est son neveu a été coupée au montage.
Et alors,
c'était le truc le plus important sur cet arc narratif, et c'est ça qui a été coupé, quoi. Et Nicolas Meyer a pas réussi à faire garder cette scène, quoi.
Même qu'il garde quand même la scène
qui a été rajoutée dans la director's cut, d'ailleurs.
Même la scène où Scotty arrive sur le bridge avec un mec mort ou un mec en train de mourir. C'est genre, va directement au Sick Bay. Qu'est-ce que tu fais à venir sur le bridge?
C'est débile.
Et ça, c'est particulier. Mais alors oui, voilà, moi, j'ai toujours vu la director's cut. Du coup, ça m'a jamais choqué. Mais enfin, ça m'a jamais choqué de voir tout le monde triste pour ce type. Mais oui, je me demandais pourquoi Scotty, qu'est-ce qu'il fout avec son neveu dans les bras? Là, dépêche-toi. Surtout qu'il est pas mort, quoi.
Il faut le sauver, hein, c'est sûr.
Il y a plein de petites erreurs comme ça dans ce film, là, où les personnages font des trucs et t'es là, mais t'es con, quoi, pourquoi tu fais ça?
Pour la défense de Nick Meyer, parce que j'ai l'impression qu'on bâche un peu sur ce pauvre type. Des réalisateurs extrêmement connus puis extrêmement respectés de nos jours, style J.J. Abrams, font exactement la même chose. Ils vont juste laisser les erreurs passer, histoire de faire avancer leur plot ou donner certains arcs à leurs personnages s'ils trouvent que c'est nécessaire. Puis...
Ah, mais après, J.J. Abrams, on l'a défoncé, hein, lors du premier film.
J'étais pas au courant.
Si on avait dû rentrer dans le détail autant qu'on le rend, l'émission aurait duré 24 heures, quoi. Mais après, bon, c'est pas grave, hein, c'est bien de rentrer dans le détail.
Après, là, attention, parce que là, ce qu'on est en train de voir, les critiques pour l'instant, c'est pas tant la réalisation, mais c'est surtout là pour l'instant des détails ou des erreurs de traitement, et on voit justement que c'est détails, hein. Justement par rapport à la director's cut, comme vous disiez, qui montre ça, justement. Après, ça va pas être le souci du réalisateur, malheureusement, mais ça va être en effet le souci des producteurs et puis du montage final. Après, non, mais j'ai oublié ce que je voulais dire.
Ça change rien au fait qu'il y a un manque dans le film, de toute façon, ça c'est sûr.
Parce que le personnage de Savick, justement, là, la femme, on la revoit peut-être dans des séries ou des films, ou c'est un personnage pour le film?
Ouais, c'est plus un personnage pour le film, et il y a eu des comics, où elle est assez présente. C'est comme La Colère de Khan a eu beaucoup de succès, il y a eu pas mal de comics qui sont mis qui sont basés sur ce film, quoi. Donc on la revoit dedans assez souvent, mais après, effectivement, c'est pas un personnage très très récurrent, quoi.
Savick revient dans Star Trek 3 et 4. C'est techniquement une trilogie sans être une trilogie, c'est juste que les trois films se suivent dos à dos. Et elle fait partie, du coup, de cette espèce de fausse trilogie qui existe, il me semble, qui change d'actrice.
Oui, et c'est pas plus mal. Il y a
pour
un
le
recasting. Il y a un recasting.
Ouais. Je pense que c'est parce qu'elle voulait pas revenir, d'après ce que j'ai compris. Je préfère aussi la deuxième actrice. Personnage reste pour les trois films.
D'après ma source très fiable, qui est Durendal, elle n'a pas voulu revenir parce qu'elle ne voulait pas être cataloguée Saavik. Elle voulait pas être accrochée au personnage. Résultat, elle a fait deux films dans sa vie, Star Trek 2 et Allô Maman, ici bébé.
Et donc maintenant qu'on la voit, on pense qu'à son personnage. Elle s'est piégée elle-même, quoi.
Ben, la pauvre. Ben, bon. Mais de toute façon, l'autre actrice que vous verrez plus tard, parce qu'on fera ses films suivants plus tard, personnellement, je la trouve plus juste. Et d'ailleurs, son personnage est peut-être mieux utilisé au moins dans le 3. Après, dans le 4, il est vraiment très secondaire, mais...
Ouais, c'est un personnage qui m'a jamais marqué, moi, sa vie que... Je reviens son nom parce que je l'ai vu revenir dans des comics assez souvent, mais c'est vrai que ouais, elle reste assez secondaire, quoi. C'est pas.
Je trouve que là, dans ce film-là, les seuls moments où elle prend un peu d'importance, c'est les moments où les autres personnages lui donnent de l'importance. C'est-à-dire, elle fait sa chieuse, elle rappelle le règlement. Elle est là, ouais, bon, bah, c'est une Hermione Granger qui fait son règlement, quoi, faites pas voir. Et t'as Kurt qui dit à la fin, non, mais en fait, t'avais raison. Et c'est là où elle prend de l'importance. Et après, on s'en fout.
Sur ce personnage, est-ce que ça vous a choqué de l'avoir pleuré au moment de la cérémonie funéraire de Spock?
La cornemuse.
C'est pas logique, en fait.
Ouais, pendant la cérémonie funéraire, il y a un petit plan assez court sur elle et on la voit pleurer.
Et on la voit aussi sourire plusieurs reprises. Hein.
Mais ça, c'est pareil, c'est une scène coupée. On aurait dû apprendre qu'elle était demi-romulienne.
D'accord.
Ah oui, d'accord.
C'est bête, hein, les scènes coupées. Hein. Ils ont coupé tout ce qu'il fallait pas.
Ouais, c'est parce que ça développe son personnage, justement. C'est c'est con.
Et du coup, une erreur, t'as l'impression que c'est une erreur, et en fait, non, c'est volontaire.
Ouais, sauf que du coup, bah, dans le lui fini, bah, du coup, c'est une erreur, effectivement. Hein. Enfin, bon.
Et question
bon, d'ailleurs, oui. Pourquoi cette team funéraire, là?
Oui, voilà, exactement.
Ils n'ont pas changé depuis, là?
C'est-à-dire? Ah oui, c'est trop, ça fait trop, mais... trop terrien, quoi, tu vois. C'est ça que tu veux dire?
Ah bah, ça c'est clair, là on n'est pas dans la fédération, là on est sur Terre dans les années 80.
Ben, en fait, c'est vraiment Nicolas Meyer, c'était une de ses... C'est pas un fan de science-fiction, en fait, Nicolas Meyer. Pas vraiment. Et il avait la sensation... Mais je suis pas du tout d'accord avec lui là-dessus, évidemment. Il trouvait important qu'il y ait des choses auxquelles le spectateur de contemporain puisse s'accrocher dans le film pour pouvoir s'identifier au personnage. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs. Le film est bourré de ça. Hein. Tu vois des cœurs qui se baladent avec son bouquin en papier, les lunettes.
Ah, ça encore, ça me choque moins.
Il y a tout un tas de détails comme ça. Mais c'est pas un reproche. C'est juste que ça a été ajouté dans la même idée en fait. C'était vraiment vraiment des ajouts dans cette idée-là. Et le coup du sifflet électronique quand ils arrivent, c'est un sifflet de la marine américaine quoi. C'est juste qu'ils l'ont. Ils ont mis des diodes dessus et puis c'est futuriste quoi. Et la cérémonie funéraire avec la cornemuse, le drapeau et tout, c'est dans le même délire en fait. C'est dans l'idée que les spectateurs seraient pas capables de s'identifier à un truc trop différent, donc il fallait mettre des trucs. Alors je suis pas d'accord, mais je peux pas nier que ça fait partie des choses qui ont fait que le film a eu beaucoup de succès quoi.
Ouais, enfin ils auraient pu quand même mettre. Je suis pas sûr que enlever la musique de l'hymne funéraire.
Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est sûr, c'est un ensemble de trucs.
Mais après, si tu enlèves l'hymne, tu vois Scotty avec une cornemuse et t'entends aucun son, donc c'est ridicule.
Non, mais tu mets pas de cornemuse à Scotty, tu commences par là déjà.
C'est vraiment intéressant que les cadets ils aient remarqué ça parce que c'est un reproche qui existe dans le fandom. J'ai pris ça comme Scotty, c'est son seul instrument qui s'est joué, il a juste voulu faire honneur à son pote, puis il sait pas faire autrement que ça. Du coup, c'est plus pour lui qu'il l'a fait que pour Spock.
Ah, c'est
mais pas...
Mais ça fait un peu cliché raciste sur les Écossais quand même.
Ouais, mais on va dire, je crois on va que dire qu'il est premier, très attaché. Hein. On va dire qu'il est très attaché à ses
ouais,
à
oui.
sa culture, mais
non, c'est dans la continuité du personnage. Non, c'est vrai, t'as raison.
Tant. Enfin, il boit son whisky tout le temps.
Comment?
Ils en font mention dans la série comme quoi il joue de la cornemuse?
Le pain.
Non, je crois pas. Mais il y a pas mal de il y a petit côté sur sa un peu sa fierté écossaise quoi. Donc donc ça se rejoint. On le voit par exemple, il y a des scènes où ils sont en uniforme d'apparat et Scotty lui dans son uniforme d'apparat, il est en kilt avec le bandeau qui passe sur l'épaule, etc.
D'accord, oui.
Une espèce de mélange entre... Ouais.
Alors j'ai toujours pris ça comme si c'était... Il a juste voulu faire honneur à son ami, mais il l'a fait de la seule manière dont il sait faire. S'il pouvait chanter une chanson, il aurait chanté, sauf que bon, personne n'a vraiment envie de voir ce que tu chantais.
Donc, enfin, d'entendre surtout... Le...
What do we do with our... What do we... Bref, je suis en train de relire mes notes là et j'ai noté un truc qui m'avait pas surpris lors du premier visionnage, mais qui m'a marqué là sur le coup. Je suis très surpris que l'équipage de Montalban de Cannes, c'est que des jeunes qui ont la vingtaine, peut-être 25 ans grand max. Oui. Pas de...
Ah, ça, j'avais jamais fait trop attention.
Ben en fait, ça fait très Platon, tu sais, le sage qui a son groupe de suiveurs. C'est intéressant, mais c'est pareil, c'est pas normal.
Ils étaient plus vieux dans la série.
Ben, ils ont son âge, quoi. Je crois.
Ils avaient à peu près le même âge, ouais. Ils avaient tous le même âge.
Et puis même
après,
sans
on
parler,
on les voit pas tous. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les vieux étaient trop vieux, donc ils sont morts.
Ouais.
Et genre parce qu'ils étaient trop fragiles, quoi. Et du coup, il y a que les jeunes forts qui ont survécu.
Ben, je sais pas. Ils ont quand même, ils ont grand maximum 25 ans, et ça fait 25 ans qu'ils sont sur la planète. Donc à la limite, peut-être que ce sont les enfants de.
Ouais, après, il y a plus rien à bouffer. Hein. Donc les vieux, ils passent en premier.
ils ont mangé les vieux, en fait.
Voilà. Non, mais je vais
dire ça. Ils étaient 72, 73, peut-être à être sur 74 avec sa femme à Cannes sur cette planète. On va dire que c'est les plus jeunes qui ont survécu. Les espèces de City Hill, là, ils ont bouffé les vieux, puis.
Ça se tient comme ça, ouais.
Les acteurs, pour la plupart, c'était les Chippendales qu'ils avaient embauchés parce qu'ils étaient beaux puis bronzés.
C'est génial.
C'est vrai?
C'est sérieux ou c'est une blague?
Non, c'est pas une blague, c'est vrai.
D'accord.
Juste, il y en a un qui parle. Je pense qu'il y en a. Ouais, il y en a un qui.
Ouais, il y en a qu'un. Bah, qui parle.
Ça se voit sur le jeu d'acteur.
Celui qui le remet un peu en cause.
À faire les costauds derrière, les gros bras.
J'ai pas compris pourquoi Khan lui a pas fermé sa gueule à ce genou. Moi, j'aurais bien vu Khan prendre la tête du mec et puis le défoncer sur le siège et puis on en parlait plus.
Ben non, parce que c'est sa famille.
Je suis bien content qu'ils aient pas fait ça. Il y a trop de films où les méchants tuent leurs subordonnés. C'est comme le type bosse pour toi, le tue pas, il est utile.
Et puis surtout, ça colle pas à l'image qui est donnée dans l'épisode, en fait, dans Space Seed. Ça aurait pas collé. Parce que son équipage, il le considère comme sa famille, il les trouve importants, etc. Donc il va pas les tuer, quoi. Enfin...
Oui, mais il est prêt à sacrifier son équipage et leur avenir pour une vengeance. Tu vois, il y a un truc qui va pas, en fait.
Ouais, mais c'est pas pareil que tuer quelqu'un parce qu'il est pas d'accord avec toi.
Après, le coup de la vengeance, c'est plus parce que comme ils expliquent qu'ils ont été, comment dire, amplifiés et au niveau physique, autant qu'au niveau psychologique, je pense que tout simplement sa soif de vengeance s'est développée tout autant que son intelligence. Il ressent un besoin de plus en plus immense de tuer Kirk, puis en mesure des années, puis au fur et à mesure de chaque confrontation qui se passe dans ce film. Devient tellement intense, il a juste besoin de le tuer, quitte à sacrifier tout le monde.
Après, par rapport justement au départ à Cam et à son équipage, est-ce que c'est tout le monde qui se suit ou c'est les gens qui suivent Cam? Parce que si c'est ça, donc forcément que après, même si Cam il va vers la mort en essayant de poursuivre Kirk, c'est normal que l'équipage le suive. Mais après, voilà, est-ce que l'équipage est un peu au même niveau et que chacun décide ou ils font une décision collective à partir de là?
Non, c'est Khan, c'est l'image du dictateur absolu, en fait, hein, ce qu'il était à l'époque où il était sur Terre. Et les gens qui l'ont suivi sont vraiment, c'est presque des fanatiques, en fait, qui le suivront jusqu'à la mort, hein, de toute façon, sans rechigner.
Ouais.
D'ailleurs, celui qui le remet en question, il le fait de manière super timide quand même. Hein, il joue pas trop les malins non plus quand même. Hein.
Et puis je pense qu'il faut en plus, il le dit de manière presque pas à se protéger lui, mais à dire Khan, fais gaffe, ce que t'es en train de faire, ça peut peut-être te mettre en danger.
Mmh. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, on n'a pas parlé du jeu d'acteur.
Oui.
Ricardo Montalban, son jeu d'acteur, vous en avez pensé quoi?
Je pense qu'il mérite une statuette au Festival de Cannes.
Oh non. ça va. Elle était presque drôle.
Celle-là, elle était préparée.
Il y a du progrès.
Ça fait 10 minutes que j'attends.
il est dans les starting blocks et tout, il a attendu de pouvoir sortir sa banne.
Elle m'est venue il y a 10 minutes, je l'avais pas préparé, elle m'est venue il y a 10 minutes, et j'attendais juste le petit truc, et là, j'entends jeu d'acteur, bim, parfait. Non mais allez, répondez à la question.
Moyen.
Ouais, voilà, moyen, voilà, sans plus.
Et comme on disait, les Chip and Dead, là, bon, mais si c'était eux, bon, forcément, alors que c'est pas leur métier premier que d'être acteur. Après, disons qu'il n'y a pas eu de scène forcément pour développer leur jeu, à part peut-être au niveau de Spock.
Moi, je pensais spécifiquement celui de Ricardo Montalban qui joue Khan, vraiment le personnage de Khan dont il est joué.
Parce que toi, tu trouves vraiment bien, c'est...
Alors moi, c'est pas un truc auquel je suis énormément sensible, à part dans certains cas vraiment particuliers. Mais c'est souvent quelque chose qui est porté au crédit de ce film en fait. C'est le jeu d'acteur de Ricardo Montalban a vraiment marqué les gens. C'est un truc que j'ai lu dans beaucoup de critiques. Donc c'est pour ça que je voulais savoir ce que vous en aviez pensé quoi. Bon, visiblement ça vous a pas marqué quoi. C'est pas.
Il y a des scènes tragiques où vraiment lorsque sa folie est poussée au bout, ou même quand il parle, tu sais, à Kirk où il, pour sa vengeance, il lui dit c'est comme si tu m'avais enterré vivant. Il dit un truc du genre. Là, tu sais, il a cette voix un peu comme fatigué, épuisé, puis il dit ça comme. Enfin, c'est là, c'était pas mal ces scènes-là, en effet, ouais.
Sean, t'en as pensé quoi?
Moi, j'ai toujours adoré la performance de Montalban dans ce film-là. Faut mettre en perspective, le film est sorti en 82. Je veux dire, en science-fiction, on a eu E.T., comme je pense qu'il y avait Blade Runner, puis The Thing, si vous avez vu The Thing.
Oh oui, le meilleur acteur de The Thing, c'est le chien. Non, c'est pas une blague, je trouve qu'il joue super bien ce chien, il fait flipper sa mère.
Il parle du moment où il se fait complètement dépecer, là, ou...
Non, tout le début, là, quand il...
Mais comment est-ce que tu veux dire ?
Il regarde, il a un regard à moitié fou, c'est génial. Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé, vas-y.
C'est tout simplement parce que le jeu d'acteur était différent. Les réalisateurs demandaient des performances différentes aux acteurs à l'époque. Et si on prend en compte juste cette espèce de première scène dont vous avez parlé au début, qui se passe dans le Botany Bay, truc de Chekhov, puis Khan, puis toute cette scène, tout ce moment, ça fait vraiment penser à presque The Thing, ça fait penser à des moments dans Blade Runner, c'est une espèce de silence, type qui fait juste parler, et puis on a peur, rien que parce qu'il est en train de parler. Et d'un coup, il sort son espèce de bestiole, là, pour te mettre dans l'oreille, c'est dégueulasse. Très bien. Honnêtement.
D'ailleurs, alors, j'ai vu dans le commentaire audio que toute cette scène, a été tournée, d'affilée. Il n'y a pas eu de coupure entre les scènes. La coupure où on le voit attraper les bestioles, en fait, ça a été rajouté après. Mais en fait, ils ont tout tourné d'un coup en fait, et après ils l'ont coupé pour pouvoir rajouter ça. Ce qui fait que l'acteur a dû parler pendant, je sais plus combien de temps dure la scène, mais il parle pendant vachement longtemps quoi, sans qu'il puisse se reprendre ou se reposer par une coupure quoi.
Et, ah bah c'est fou. Ils ont des monologues quand même assez longs dans ce film, même quand ils sont plus tard dans la nébuleuse, là, ils ont des monologues qui sont quand même assez longs. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est que William Shatner et Ricardo Montalban se sont jamais vus durant tout le tournage du film. Mm. Ils étaient jamais dans la même pièce, ils se sont jamais rencontrés. Alors, tout leur va-et-vient, tout leur dialogue, essentiellement devant même pas des fonds verts, juste devant des écrans noirs. Donc, ils ont dû, faire toutes ces émotions, puis, faire tous ces dialogues sans avoir qui que ce soit en face.
C'est génial, tu vois, à savoir. Je trouve ça hyper intéressant. Un film d'aujourd'hui aurait presque basé toute sa promo là-dessus pour avoir justement une statuette par rapport à la plaque que je faisais. Et je trouve ça génial d'apprendre ça. Je sais pas s'ils en ont fait la pub à l'époque, que les deux acteurs ont fait comme leur personnage. Ils ne se sont pas croisés, quoi. Et je trouve ça, c'est génial.
Et alors moi, j'ai trouvé aussi que William Shatner jouait mieux que d'habitude dans ce film. Il est un peu moins dans, il cabotine moins quoi, il est moins dans surjeu et il est plus mesuré que dans ses autres films ou que dans la série, je trouve.
Il y a quand même le fameux Khan.
Ouais, mais c'est la seule scène en fait vraiment où il surjoue.
Question intéressante par rapport à ça. Pour vous cadets là, j'avais vu une théorie qui disait comme en que Khan les écoutait. Il y a des gens qui disent que William Shatner aurait surjoué son Khan pour comme comment dire essayer de faire croire à Cal qu'il est encore plus énervé que s'il est vrai. Est-ce que vous pensez que ça n'est pas?
Ah, c'est pas mal ça.
Je sais pas si c'est vrai, mais j'aime beaucoup l'idée en tout cas.
Ah, franchement, non, c'est une bonne idée, ouais.
Donc, si je résume, tu dis que Shatner joue un Kirk qui surjoue, non?
Non, c'est Kirk qui joue un Kirk en colère.
Oui, voilà. Donc, oui.
Shatner qui joue le Kirk qui exagérerait justement pour.
D'accord. Ok. Oui, c'est. Ben oui, surtout que. Bon, déjà, je dans la scène en elle-même, je trouvais qu'il s'énervait vite alors qu'il vient de marquer un point face à Khan et il s'énerve sur juste une phrase. Et c'est vrai que ça rentre dans le contexte avec ce qui se passe un peu plus tard quand tu te rends compte qu'en fait il était pas du tout dépassé.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il vient de marquer?
Ben il a fait je sais plus ce qu'il lui dit oui si il prend le micro là pour lui parler et lui dit mais ça fait des heures et des heures que t'essayes de me tuer et pourtant tu t'obstines à rater la cible espèce de loser et on voit Khan qui est dépité parce qu'il a pas réussi à le tuer, son plan a pas marché et là il lui dit oui mais je vais te faire souffrir et du coup Khan.
Ah, je l'ai pas du tout perçu comme ça, moi.
Enfin, je résume, hein, évidemment.
Ouais, non, mais moi, je l'ai pas perçu comme ça. C'est plus Khan qui, enfin, je pense que, enfin, moi, je l'ai perçu comme quand Khan, il dit qu'il fait exprès parce que son but, c'est de le faire souffrir, que c'est vrai, quoi. Que c'était vraiment ça, son but. Et que donc, du coup, Kirk, pour moi, il avait pas marqué un point, ça. Mais après, bon, c'est une question de perception, je pense, hein, mais.
Ben, je sais pas, visuellement, on voit Khan qui, lorsqu'il apprend qu'il a raté son coup, qu'il a pas réussi à tuer Kirk, on le voit s'affaisser dans sa chaise, en arrière, fermer les yeux, soupirer. Enfin, moi, j'ai vraiment vu, ben, justement, si on regarde l'analogie du jeu d'échecs, j'ai vu une tour qui vient de prendre un fou. Enfin, je vois Kirk qui met vraiment un gros point. Ou qui évite un piège, je sais pas. Enfin, bref. J'ai peut-être tort, hein. Y a pas de souci, hein. C'est vous les commandeurs, hein, de toute façon. Je suis à peine au-dessus d'un cadet. What else? Est-ce qu'il y avait d'autres points?
Alors, est-ce qu'il y en a qui vont regarder en VF?
Non.
Pas VF. Non.
Pourquoi, qu'aurais-tu à dire là-dessus?
Bah parce qu'en fait, Savick, en fait, elle est appelée Monsieur.
Oui, oui, ça c'est normal.
D'accord, ok.
Ah bon?
C'est original aussi.
Ben, en fait, dans la marine américaine, du moins, je sais pas si c'est pareil en France, un navigateur est toujours appelé Monsieur. Parce que ça vient de l'époque où c'était mal vu d'avoir des femmes à bord. Donc, même si c'était des femmes, on les appelait Monsieur.
D'accord.
Ah oui.
J'avais jamais eu le cas, en fait, ou alors j'avais jamais fait attention sur ce qu'on avait regardé jusque-là. Et là, c'est vrai que ça m'a choqué.
En VO aussi, je crois qu'il y a un moment où on le dit Mister Savick. Mais je suis pas sûr. Peut-être que c'est une bêtise.
C'est marrant parce que justement, au moment où il a dit Monsieur, moi, je me suis dit, ah, est-ce que justement, c'est pas un homme qui a décidé de changer de corps, de changer de sexe, justement par rapport aux thématiques où justement Star Trek qui est entre guillemets en avance sur son temps, je me suis dit ah ouais, il développe ce questionnement dès les années 80, dès le film, c'est super intéressant. Et en fait non,
les 70,
ouais.
Ah non, les années 80, non, pardon. Ouais
82, ouais.
Ouais non, c'est Star Trek était en avance, mais pas à ce point-là quand même.
Et ouais, c'est pour non, ça sur le moment je m'étais dit ah ouais, c'est le traite maintenant, et en fait non, ouais, comme tu le dis, en fait c'est juste par rapport à son rang, on va dire le poste.
T'es un petit peu là-dessus un peu plus tard dans The Next Generation. Mais sinon dans les films de manière générale, on traite pas vraiment sur des sujets comme ça,
mais même de manière générale Star Trek est très en avance sur beaucoup de choses, mais point de vue sexuel et genrisme, je trouve qu'il n'y a pas tant de... Enfin, maintenant, ils essayent de se mettre à la page, mais à part épisodes de Next Generation où ils utilisent très justement et très bien Riker pour ça, je trouve pas que la sexualité et le genrisme soient... Ouais, avec Dax.
Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais... Il suffit qu'il y en ait un, en fait, hein, pour que le message passe. Hein.
J'ai l'impression qu'ils ont considéré qu'en fait, voilà, c'était ces questions-là n'étaient plus abordées à l'époque, mais on va pas les aborder nous quand même.
Il y a Cogenitor aussi dans Enterprise.
Vas-y, Sean, vas-y.
sexualité et puis de l'orientation sexuelle, ils traitent un petit peu là-dessus avec Deep Space Nine parce qu'ils ont ce personnage de Dax. Mais sinon, au niveau du changement de sexe, c'est quand même c'est très contemporain. Je veux dire, ça se passe de nos jours là. C'est dans les quelques dernières années qu'on commence à vraiment parler de ça. Le changement de sexe, ça n'a jamais été quelque chose de très sujet avant. Donc du coup, je pense que tout simplement, ils avaient d'autres choses à écrire, ils avaient d'autres sujets à aborder. Surtout à l'époque de Next Generation, c'est début années 90.
L'épisode The Outcast, qui est dans la saison 4, si je dis pas de bêtises, traite le sujet directement. Alors,
attends, c'est celui où Riker tombe amoureux d'une personne.
D'une personne qui vient d'une planète où tout le monde est à genre.
Oui, voilà le genre.
Et qui se considère comme femme, et qui est donc une femme trans en fait. Elle s'appelle Soren. Et Riker a une tombe amoureux d'elle. D'ailleurs, je trouve ça intéressant avant de savoir que elle se considère.
Ils s'embrassent dans un shuttle plus tard, tout ça.
Et après, thérapie de conversion, lavage de cerveau, machin. C'était pour dénoncer aussi les thérapies de conversion des homosexuels, mais aussi pour des personnes trans. Thérapie de conversion qui existe encore en France d'ailleurs. Il y a eu une pétition il y a pas longtemps qui a fait un peu parler d'elle là-dessus. Il y a un projet de loi en cours pour les interdire.
Alors là, je suis extrêmement choqué. Je ne savais pas que ça existait toujours.
Mais j'ai été extrêmement choqué quand j'ai appris que ça existait en France à l'heure actuelle. Pareil, mais bon, voilà. Et après, effectivement, il y a l'épisode d'Enterprise où il y a une espèce qui a trois genres en fait. Il y a les hommes, les femmes et les cogéniteurs qui n'ont pas de genre et qui sont comment on pourrait dire.
Et puis dans cette histoire-là,
ils ont peu de droits, ils sont c'est limite des esclaves.
Tout un truc avec Trip, il me semble.
Oui, voilà, ouais. C'est Trip, pas Tyler, n'importe quoi. Oui, Trip tombe. Il tombe pas amoureux, mais il essaye de prendre sous son aile une de ces personnes.
C'était vers quelle année ces épisodes?
C'était 2003, peut-être. Bah, celui d'Enterprise, ouais, 2003. Sinon, Next Generation, c'est genre 92, si c'est dans la saison 5.
Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Je sais plus si c'est la 4 ou la 5.
Mais... c'est assez vieux, ouais. Okay. Mais oui, je me rappelle que Jonathan Frakes avait demandé à ce qu'il caste justement un acteur.
Ah, ça aurait été vachement bien.
Toute l'équipe de production avait pas voulu que ce soit un acteur parce qu'il s'embrasse justement. Donc ils voulaient pas qu'il y ait deux hommes qui s'embrassent. Donc ils ont cast une femme de la personne androgyne.
Ouais, c'est dommage. Ça aurait été vachement bien. Après, cet épisode, il me semble que j'avais vu dans les bonus qu'il avait pas mal fait scandale quand même. Qu'il avait reçu des menaces de mort, des trucs comme ça suite à ça quand même. Donc si ça avait été un homme, ça aurait été encore pire, je pense. Mais
surtout à l'époque, aux États-Unis, il fallait faire vraiment attention à ce qu'on faisait là quand on sortait les épisodes. Surtout pour la série originale, qui s'était constamment en train de se faire menacer, de se faire cancel à chaque épisode qui sortait.
moi, je voudrais juste reparler du projet Genesis parce qu'on l'a survolé en disant juste que c'était vitof bien. Moi, j'ai trouvé que c'était un concept de science-fiction qu'on voit de temps en temps. Et j'aime beaucoup ce concept, en fait, parce que c'est jamais utilisé de la même manière. Très souvent, on l'utilise pour dire « c'est pas bien de créer la vie parce qu'on n'est pas des dieux ou quoi que ce soit ». Et là, on se base pas trop dessus, on voit juste les résultats en se disant que c'est vachement cool. Vous en avez pensé quoi ? Je vous ai tous tués.
Moi, j'ai trouvé que, justement, j'aurais aimé que, justement, à la Star Trek, ou comme on l'a vu dans les séries, qui développe justement ce côté pour ou contre, ou quelle est notre place par rapport à ça, est-ce que, mais justement, vu qu'on en a le pouvoir, est-ce que forcément, alors, ça, on doit le faire. J'aurais voulu que ça se détaille, le film le détaille un peu plus, après, c'est peut-être pas le sujet du film. C'est vraiment la colère de Khan, hein, comme son nom l'indique. Mais après, dans l'idée, ouais, c'est, je crois, Durandal, justement, ton chéri Sinoc, oui, mais il le comparait à la bombe atomique, hein, en disant que l'énergie atomique pouvait être utilisée à de bonnes fins pour l'humanité, mais aussi de manière, enfin, pour la guerre, quoi, tout simplement. Moi, j'aurais voulu qu'il développe un peu plus. Parce qu'à un moment, Spock, il en parle, justement. Et t'as McCoy qui le reprend par rapport à ça. Mais ils ont juste un échange et c'est pas plus détaillé. Ça s'arrête là.
Ouais. Ouais, c'est, le dialogue est assez court, effectivement. Mais, ouais, c'est, je pense que c'était, juste moyen de lancer une piste, pour que les spectateurs se posent la question. Et, plus que de l'approfondir dans le film, effectivement. Mais ça aurait pu être pas mal qu'il approfondisse, je suis d'accord avec toi.
Ça fait un peu penser à l'échange qu'on avait eu à la fin de l'épisode sur Khan, par rapport au, enfin, on fait du choix de Kirk, justement, de le laisser sur la planète. Au final, il n'y avait pas beaucoup de débats là-dessus, mais il nous laissait sur cette fin-là. C'est vrai que d'une certaine manière, peut-être aussi, en effet, comme tu le dis, peut-être il laisse au spectateur le soin d'en débattre plus tard. C'est pas la thématique du film, mais en effet, on vous laisse ces quelques phrases pour vous débattre après dessus.
D'accord, finalement. Je trouve que c'est, personnellement, que c'est vraiment, tu remplaces, Genesis par une grosse bombe. Basiquement, le scénar bouge pas. Et, les quelques phrases que vous dites qui sont balancées par-ci par-là, elles sont pas à la fin de l'épisode. Elles sont, au milieu de deux dialogues, comme ça, balancées un peu à l'arrache. Je le trouve vraiment mal exploité, en fait.
Ça sera exploité en fait dans le suivant un petit peu.
D'accord.
Ouais, c'est pas tellement.
Que ce soit pas une. Ouais, le fait que ce soit pas une bombe, c'est très important, mais pour le suivant.
Ouais, ça par contre. Oui. Ce qui a noté, c'est que c'est une technologie qui a été abandonnée parce qu'on voit dans au 24e siècle qu'il y a des de la terraformation qui se fait et qui se fait de manière beaucoup moins efficace. Beaucoup plus progressive et beaucoup plus lente. Donc la technologie a plus été utilisée après. Je sais pas si ça apporte quelque chose au débat, mais alors soit c'est parce que c'était trop dangereux, soit c'est parce que c'était pas compatible avec les précautions à prendre dans le cadre d'une terraformation. Notamment, il y a un épisode de The Next Generation où parce qu'il faut faire attention à pas détruire de formes de vie qui existaient avant, parce que ça serait, la Fédération dans les règles, c'est pas, ça se fait pas, quoi, c'est pas bien. Donc, il y a un épisode, justement, où t'as une équipe de terraformation, je sais plus exactement comment ça se passe, si c'est eux qui essaient de le cacher, ou si c'est leur ordinateur, ou je sais plus, une histoire comme ça, qui essaie de cacher une forme de vie, justement, pour pouvoir continuer la terraformation, alors qu'ils devraient pas. Donc, c'est peut-être des étapes progressives, justement, pour pouvoir permettre de au cas où on s'aperçoit en cours de route qu'il y avait des formes de vie sur la planète. C'est le gros défaut de Genesis, en fait, c'est que ça détruit tout, et puis, donc, pour construire, c'est obligé de détruire avant, quoi.
Genesis marche juste pas aussi. C'est quand même assez bien montré que Genesis.
Ouais, ça fait ça super longtemps que je l'ai pas revu et je suis pas trop d'accord.
Star Trek 3, vous allez comprendre pourquoi Genesis, c'est juste.
Ah, mais oui, c'est complètement vrai, c'est cassé comme projet. À la fin, oui. Genesis. Ça me revient en mémoire.
Ben, c'est au point
essentiellement que... brisé.
Et donc du coup, ça s'avère n'être qu'une arme de destruction massive.
Ça fait quelque chose de beau pendant un moment, puis après ça marche plus. Donc du coup, ils sont obligés de trouver des moyens de terraformer, on va dire, plus différents. Puis autant essayer de trouver des moyens qui sont moins dangereux,
moins brutaux.
Justement, Rémi, tu voulais nous amener là-dessus. Toi, t'as peut-être quelque chose à dire dessus ou...
Non, c'est juste que j'aime quand la science-fiction parle de ça, de la création par l'être humain. Généralement, c'est toujours ou presque, j'ai perdu le mot. Ça m'énerve. Extrêmement antipositif, négatif. Mais c'était pas le mot que je cherchais. comment?
Dystopique.
Oui, de fait de façon blasée. Oui, dystopique. Ouais. J'aime ça. J'aime ce concept. Genesis. Tu balances une bombe qui est programmée et bam, t'as des arbres qui poussent. D'ailleurs, c'est au point que ça fait pousser des montagnes. Je sais pas si vous avez vu sur la petite vidéo. C'est un petit peu, c'est dommage. Mais
ça crée même une planète en fait.
Ben la planète existe déjà.
Mais la dernière, là où Genesis a pété en dernier. Il y avait rien autour du vaisseau.
C'est ouais, sûr. Si, là où...
La bombe où... est à l'intérieur du vaisseau.
Oui, mais là où Marcus s'était... Là où Marcus s'était s'était réfugié sur... j'ai oublié ce nom.
Regula One.
Oui, c'est pas ça
À la fin, il me semble que ça prend la matière de la nébuleuse pour créer la planète.
Oui. Ouais, c'est ça, ouais.
D'accord. Ah ben c'est encore plus génial comme concept.
Ça convertit la matière. C'est très dangereux, vraiment. Genre ça convertit n'importe quelle matière, puis ça recrée. C'est pour ça que ça crée des montagnes sur la Lune là où il n'y en avait pas. Genre, complètement d'accord. Génétiquement, mais ça restructure complètement genre les propriétés moléculaires de la chose. C'est juste taré comme truc.
Moi, je trouve ça cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez aborder avant de parler? Vas-y.
Pour une fois, il faut le souligner, la musique du film.
Ah, très bien.
James Horner, le compositeur. Franchement, là, j'ai écouté le générique, j'ai dit, ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, j'ai apprécié le truc, je suis même allé chercher le compositeur, je me dis, attends, ce mec, c'est pas possible. Et en fait, c'est ça qui est énorme, c'est que lorsqu'ils ont pris ce compositeur, il était jeune pour le film, il était méconnu, et après t'apprends plus tard qu'il a fait la musique des films comme Braveheart, Titanic, Aliens, avec le S, le 2, Le Nom de la Rose et tout ça. Enfin, c'est un mec qui a appris en plus à une renommée, quoi, à ce niveau-là.
Ça fait partie de beaucoup de talents qui ont été révélés par Star Trek et qui sont ensuite émancipés de ça et qui ont fait des trucs grandioses. Par la suite, ouais. Il y a pas mal de gens qui sont passés sur Star Trek qui ont fait des gros trucs après derrière. Le gros exemple de ça, qui a beaucoup travaillé sur Deep Space Nine et sur The Next Generation aussi, et qui après a fait une série de science-fiction très très connue maintenant, le reboot de Galactica, Battlestar Galactica.
Ok.
Mais ouais, je suis assez d'accord. La musique est vraiment excellente dans ce film. Et après moi, dans Star Trek en général, j'accroche souvent à la musique, donc voilà. Mais c'est vrai que pour ce film, elle est particulière. Ouais.
Puis c'était une période aussi où il y avait pas mal de films de composition de films. T'avais Indiana Jones l'année précédente. Enfin, c'était une période, je trouve, les années 80 où c'est des sons pour des films qui te restent en tête. J'aime beaucoup cette période au niveau des compositeurs, ouais.
Rémi? Monsieur l'animateur, est-ce que vous pouvez animer, s'il vous plaît?
Allez tous vous faire voir, on a dépassé 22h, je vais au lit. Allez, vous débrouillez, bonne nuit.
Voilà.
C'est la deuxième bière.
Non.
Deux blondes, c'est trop pour lui. Two blondes, one.
Ouais, voilà, merci. Non, moi, j'allais venir à la conclusion, en fait, de donner nos avis à nouveau généraux et voilà. Je sais pas, vous pas d'autres sujets.
Juste leur demander, vous avez pensé quoi des effets spéciaux?
Bien aimé par rapport à la série originale.
Voilà. Habile.
Il y a 20 ans d'écart quand même. C'était le.
Oui, voilà, c'est ça.
Au final, je sais pas s'il y a eu peut-être des plans dans l'espace, mais. Je sais pas si on en voit tant que ça.
Il y a les passages avec les vaisseaux en 3D là, ça dénote un peu.
Ouais, alors
c'est plus au niveau de la station spatiale.
Le film a été récompensé pour la vidéo de l'effet Genesis, parce que c'était les débuts de vraiment des images de synthèse, hein, et c'était une des premières fois. C'est pas la première fois parce que je crois qu'il y a eu d'autres films avant qui l'ont fait. Mais où il y avait une séquence aussi longue d'images entièrement générées par ordinateur. Et donc ils ont été récompensés pour cette séquence. Sean, t'allais dire un truc sur la station?
Bah si. Non, je disais juste que elle est en revue là en plus, juste avant d'enregistrer, j'étais étonné de voir marquante. J'ai trouvé ça vraiment bien.
Ok. Moi je me souviens que la nébuleuse m'a particulièrement plu. Mais après, j'ai pas de souvenir particulier d'effets spéciaux. Beaucoup de pratiques, des trucs qui explosent dans tous les sens. Il y a un moment où j'ai un peu tiqué, mais alors c'est vraiment un détail, mais ça dure une seconde. C'est lorsque l'équipe de Kirk et Saavik se téléporte j'ai encore perdu le nom depuis la station
Regula One.
Sur Regula One, la téléportation fait un espèce de flash qui prend tout l'écran, je sais pas pourquoi, pour faire disparaître les personnages, alors que le reste du temps, ben notamment quand ils reviennent en fait de Regula One, on les voit se matérialiser. Et ah ben d'ailleurs, on a un super moment où Savik est en train de parler avec Kirk pendant qu'il se téléporte, et elle continue de parler alors qu'ils sont téléportés. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà.
J'ai pas fait attention qu'ils discutaient, enfin continuent de parler.
Ouais, elle est en train de pas de l'engueuler, mais je sais plus. C'est à propos des heures du langage codé qu'a utilisé Kirk avec Spock. Ils sont en train de se téléporter. Elle dit mais je comprends pas. Il s'agissait de 3 jours et pas de 3 heures. 2 jours au lieu de 2 heures. Et c'est, j'ai trouvé ça rigolo parce que le son suit l'image, donc on la voit apparaître. Je fais le signe avec ma main. On la voit apparaître et on l'entend parler en même temps. J'ai trouvé ça cool. Bref. Allez, on part sur les conclusions générales. Absol, Charles, dis-nous, de manière générale, qu'as-tu pensé de ce film ?
De manière générale, un bon petit film avec quand même pas mal de petits détails dérangeants et qui se regardent.
Ok, Renaud ?
Pareil, de bonnes idées, après c'est pas un film que je reverrai. C'est intéressant, mais ça s'arrête là.
Et les commandeurs, qu'est-ce que vous pensez de ce film ?
Alors c'est un film que j'aime beaucoup, comme les 10 premiers films Star Trek, hein, je les aime tous beaucoup. Hein, c'est vrai que mon étonnement se renouvelle régulièrement sur le succès monstrueux qu'a eu ce film et la place qu'il a dans le fandom. C'est un film qui revient tout le temps dans les tops des films Star Trek. Il est toujours en premier ou en deuxième. Il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme leur Star Trek préféré, leur film Star Trek préféré. Et du coup, je le trouve un peu surestimé en fait. Il est vraiment très bon. Enfin, moi, je le trouve vraiment très bon. Je passe toujours un bon moment dessus, mais bon, c'est pas mon préféré. Et je sais pas, ça m'étonne. Qu'il soit aussi mis en avant, que le personnage de Khan soit aussi iconique, etc. Alors que il est super intéressant, etc. Mais je pense qu'il y a des personnages d'antagonistes de Star Trek qui sont plus intéressants que Khan, quoi. C'est dommage qu'il y ait pas de, parce que finalement j'ai l'impression qu'on est aucun à être des fanboys invétérés du film, du coup. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un vraiment fan du film pour le défendre, parce que ça m'intéresserait d'avoir une vision plus en détail sur les raisons qui font qu'il est aussi culte, parce qu'il est vraiment culte, quoi. C'est vraiment considéré comme un film culte, et même aux États-Unis, même en dehors de la sphère des fans de Star Trek, c'est un film qui est auquel je vois souvent des références dans d'autres œuvres. Et je pense que c'est en partie lié au jeu d'acteur de Ricardo Montalbán, qui à l'époque, je pense, a vraiment marqué. Mais à part ça, voilà. Mais sinon, je l'aime bien. Il y a une scène dont on n'a pas trop parlé, mais juste le passage avec les parasites qui rentrent dans l'oreille, il y a du sang qui coule, ouais. Et tout, ça fait très...
Alien.
Ce petit passage fait... Ouais, et moi je l'aime bien, ça c'est... Ouais, j'aime bien les trucs un peu dégueulasses en général, donc c'est mes mauvais goûts qui flattent, mais quand on compare à d'autres films Star Trek, il est quand même assez explicite, enfin étonnamment explicite par rapport à pas mal d'autres films qui sont plutôt dans la retenue sur ce genre de choses, et c'est pas ça me déplaît pas, quoi.
Ok, et toi, Sean?
Vraiment, ce que je peux ajouter à ce que vient de dire Dragor, honnêtement, je partage le même avis. C'est un film que j'aime bien. Ça fait partie des films. Il serait dans ma, on va dire, moitié supérieure si je devais rank tous les films Star Trek, mais il ferait vraiment pas partie de mon top 3. C'est un bon film. C'est juste que je pense qu'il est vraiment surestimé. Le fandom d'idolâtrer autant le film Khan que l'épisode Khan que Khan lui-même. Alors que c'est intéressant comme personnage, l'épisode est intéressant, le film est intéressant, mais c'est pas non plus le mieux que Star Trek a à offrir, je trouve. Puis j'ai mon petit beef personnel avec Nick Meyer qui a cette manière de réaliser un peu frustrante, qui nous crée des erreurs là où des trucs à moi, quoi. Donc voilà, c'est un bon film, c'est juste que le hype qu'on lui apporte, et donc du coup c'est intéressant de voir des nouveaux fans les gens qui connaissent pas la licence arriver puis regarder ce film pour la première fois, ils doivent se dire ah, c'est énorme, genre c'est Cannes, c'est gros, c'est un truc de fou. Puis au final,
ouais,
pas mais sans plus.
Au final, l'effet, ouais. Mais moi, pour ma part, mon avis n'a pas bougé après ce visionnage. Je trouve que ce film est très intéressant parce qu'il est quand même très multifacette. On a pas mal d'humour, on a de l'action, on a de très bons dialogues, comme je l'ai dit tout le long de l'émission. On a un petit peu d'horreur, comme le disait Dragor avec les larves d'oreilles. Aussi la scène de quelques minutes d'exploration de la station spatiale. Mais je trouve que c'est un film, en fait, son gros défaut, c'est qu'il sert à trop faire valoir Kirk. Et ça participe à ce que j'aime le moins dans Star Trek, en fait, cette érection de Kirk et de son équipage au rang de surhomme, de surhumain. Et j'ai beaucoup de, comme disent nos amis canadiens, j'ai beaucoup de misère avec ça.
Là-dessus, le film, pour moi, il porte plus un embryon de ça que vraiment le...
Bah, quand même,
c'est un peu ça qui a lancé le truc, mais... Au final, je trouve qu'il est pas si... Enfin, quand tu vois à côté, même si c'est un petit con, le personnage de Kirk de la KTL, par exemple, ou Kirk tel qu'on peut le voir dans certains comics, finalement, je trouve que c'est quand même assez... ça reste mesuré.
Ouais, sa première apparition, quand même, c'est sur une lumière dans son dos, on voit son ombre qui se découpe, on le voit s'approcher. Voilà.
C'est pour les fans, ça, c'est pas lui. C'est parce que les fans sont contents de voir le capitaine arriver, comme ça, ça fait épique. Elle, la capitaine, puis t'es là, on sait pas qui c'est, elle, c'est la capitaine, mais au final, non.
En plus, elle est nulle, elle fait exploser son vaisseau.
C'est ça, tu dis, elle vient tuer tout le monde, mais t'es bien au courant qu'elle tue personne, là, mais genre, Kirk, j'aime bien. J'ai aucun problème avec ça.
Ok.
J'ai une question pour les cadets, est-ce que... Le personnage de Khan tel qu'il est dans le film correspond à l'image que vous en aviez par rapport à son rayonnement dans la pop culture. Est-ce que vous aviez déjà une image des idées préconçues sur le personnage
Alors moi, Khan, je le voyais comme un Dark Vador ou un Vegeta, un grand méchant quoi. Et bah ça fait un peu pauvre quoi.
Ouais, la même pensée que Absol. Je savais pas quoi m'attendre, mais vraiment un personnage iconique et ouais de ce qui avait été montré déjà sur la série, enfin de l'épisode qu'on avait regardé, j'avais été déçu. Après, j'en attendais plus rien dans le film parce que de toute façon, il fallait qu'il reste comme dans la série, hein, vu que c'est ce personnage là. Mais à voir, je me souviens plus trop comment ça se passe dans Into Darkness, mais à voir, à revoir.
Dans Into Darkness, il est déifié.
Pas de spoil, pas de spoil. pas de marque.
Okay, bon. Mais ouais. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça a pu influencer en négatif votre appréciation du film?
Moi, c'est possible. Hein. Ouais. C'est clairement.
Ouais. Mais disons que quand t'as un méchant qui t'emballe pas, ça joue beaucoup. Hashtag Marvel.
Non, mais je parle sur le fait que vous aviez de Cannes et que finalement vous l'avez pas forcément retrouvé dans le film. Est-ce que le fait de pas avoir retrouvé cette image dans le film, ça l'a desservi quoi?
Non, comme je te disais, le Cannes, je m'attendais à un personnage iconique, mais j'avais pas fait une, comment dire, je m'étais pas imaginé un certain type de personnage. Genre, est-ce qu'il va être violent, est-ce qu'il va être psychopathe? Donc au final, forcément t'as une attente, mais vu que je savais pas du tout où ça allait aller. Je pense pas que mes attentes ont fait que j'ai été déçu. Je pense que c'est très clair.
Non, parce que
je pense que pour finir, on peut parler de. Je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais Alex Kurtzman, qui est actuellement genre le showrunner de toutes les séries Star Trek, pas les films, juste les séries à CBS All Access, vient de signer un contrat pour 5 ans avec CBS et donc ils vont produire plusieurs nouvelles séries sous des formats différents. Et en principe. Dans ces plans, c'est une mini-série Cannes, hein, comme 10 épisodes ou un truc comme ça. Ça va durer juste une saison. Et on ne sait pas encore si ça va être traité sur Cannes pendant les guerres eugéniques ou si ça va être traité sur Cannes sur la planète. Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas revenir sur Cannes. Moi, je pense que ce serait vraiment le moment, la puissance de Cannes, l'intelligence de Cannes avec une réalisation moderne et une histoire.
Je pense que les deux seraient bien. que ce soit les guerres eugéniques ou sur la planète City Alpha 5. Dans les deux cas, on peut avoir des super histoires. Ce serait bien peut-être même de faire les guerres eugéniques, comme ça on explore encore une nouvelle période de l'ère Star Trek.
Moi ça m'emballe pas du tout, mais je suis pas objectif parce que Alex Kurtzman, c'est, je déteste tout ce qu'il fait en fait, donc du coup voilà, je peux pas être, enfin voilà, mais même l'idée de revenir sur Khan m'emballe pas vraiment, quoi. Je trouve que c'est un personnage qui, il y a un comics sur cette Alpha 5, je crois qu'on va en parler, il me semble. Il est bien, mais en fait, je passe un bon moment quand je le lis, mais il sert à rien en fait. Et même parler de Khan dans les guerres eugéniques, pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt, que ce soit par rapport au personnage ou par rapport à Star Trek. Ça m'attire pas du tout, quoi.
Ok. Mes très chers cadets, bon, je crois que vous avez tous les deux déjà vu Into Darkness, alors que je vous avais dit de pas le faire, hein, bande de saleté. Mais qu'est-ce que vous
attendez?
C'était il y a
longtemps, je t'allais voir au ciné.
Et toi aussi, Charles, c'était il y a longtemps?
C'était il y a très longtemps.
Ok, bon, ça va, alors. Après avoir vu donc Space Seed et Wrath of Khan, qu'est-ce que vous attendez d'Into Darkness?
Pas grand-chose. Un vrai méchant.
Et toi, Renaud?
J'en avais gardé un bon souvenir, mais j'ai aucun souvenir du film. Donc ça va être très intéressant de le revoir avec les connaissances, bon, les quelques connaissances très minimes de Star Trek. Ça va être intéressant de revoir ça, donc hâte, très hâte.
Je vais revenir sur ce qu'a dit Charles, un vrai méchant. Une des choses que j'aime dans le personnage de Khan, c'est justement que c'est pas un méchant.
Non, mais un vrai antagoniste. Je pense qu'il a pas de carrure, en fait. Par rapport à comment il est déifié, je pense qu'il manque de carrure.
On pourra dire que la culture populaire a tué Khan.
Voilà, c'est
parce
ça.
Parce que, non, mais c'était une des craintes que j'avais quand vous en parliez dans Space Seed, justement, déjà de ce côté-là. Parce que...
Star Trek a pas de Dark Vador, Star Trek a pas de... comment il s'appelle le con là qui est dans Harry Potter?
Voldemort.
Non mais Voldemort.
Non,
Voldemort.
Je vais pas dire son nom.
De un grand méchant, il a pas de Sauron. Star Trek, c'est juste des antagonistes où chacun a son idée de comment il doit faire les choses. Souvent, c'est des amiraux qui deviennent un peu tarés, tu sais. Mais donc du coup, on essaye d'associer Khan à toute cette troupe là, mais Khan, c'est pas un grand, c'est pas.
Ouais.
Je pense que effectivement, comme tu dis, ça doit détruire un petit peu les gens doivent avoir une idée de ce qu'ils vont aller voir, puis au final quand ils le voient, c'est pas du tout ça. Donc on se retrouve un peu déçu.
Bah, Khan d'un côté pourrait être vu comme un Thanos.
Un quoi?
Un Thanos.
Un Thanos.
Ah. J'ai cru qu'il avait dit mon nom de famille en fait. Pardon.
Non.
t'as le nom.
Oui, tu mélanges Thanos et une grande marque de yaourt française et tu as mon nom de famille.
Là tu perds en classe, quoi.
Ah, j'imagine trop Thanos en train de manger dans une pub.
J'imagine trop Thanos dans la moitié du corps.
Bon.
Ah oui, d'ailleurs, autre question que je me demande, justement ce fameux cri de Khan, est-ce que vous avez est-ce que ça vous a marqué, est-ce que ça vous a permis de comprendre pourquoi c'était culte et que c'était repris partout ou pas?
Moi, je l'attendais vraiment. J'ai été déçu de pas le voir dans la série originale parce que je pensais qu'il était là. Et du coup, c'est vrai que j'étais un peu déçu de pas l'avoir vu. Et là, de l'avoir vu, ouais, non, franchement, je comprends pourquoi il a tourné, quoi. Aussi bien au niveau du surjeu de l'acteur, mais aussi au niveau de la symbolique, on va dire, du personnage.
Ouais, après, par rapport à ce qu'on a dit, la manière peut-être dont il a faussement crié sa colère, en y repensant, peut-être à revoir la scène, ça aurait donné plus d'impact. En effet, je connaissais ce cri, enfin, en tout cas entendu parler. Après, vu que j'étais pas forcément entré dans le film, j'ai vu la scène telle quelle, sans plus, on va dire. Mais content quand même de la découvrir, après je comprends pourquoi elle peut plaire.
Alors moi, quand j'ai découvert Star Trek, je connaissais vraiment rien du tout de Star Trek. Les cadets, quand ils ont commencé, eux, ils en savaient plus que moi. Et du coup, je savais pas que ce cri était culte, en fait. Et quand j'ai vu le film, il m'a pas du tout marqué. Et c'est après, du coup, que j'ai découvert que ça avait marqué et que c'était rentré dans la culture populaire. Et du coup, j'ai jamais compris pourquoi il était culte, en fait, ce cri. C'est pour ça que je posais la question, en fait. Parce que moi, ça m'a...
Il est à la fois emblématique, on va dire, de la rivalité entre les deux personnages, mais aussi ridicule, entre guillemets. Sorti de son contexte, le cri est ridicule.
Ouais, c'est vrai.
Que tu prends le nom d'un Dark Vador, aussi, tu le vois dans la scène, il te choque pas. Par contre, tu sors de la scène et t'en fais des gifs, bah, ça marche.
Ouais. Après, en fait, c'est un mème avant les mêmes, alors.
Je pense que c'est plus ça. Ouais, voilà, c'est ça.
Après, tu regardes quand même Star Wars, même si tu connais cette scène et tu sais ce qu'il dit, tu restes quand même sur le cul. Enfin, moi, je connaissais cette phrase-là et quand j'ai vu l'épisode 5, tu vois, j'étais quand même sur le cul.
Alors,
parce qu'il y a toute une symbolique et tout un...
Ouais. Alors, dans Star Wars, il y a un nom à chaque épisode, en fait. Ça, j'ai jamais fait gaffe.
Un quoi, pardon?
Il y a un nom dans tous les épisodes.
Il y a pas I have a bad feeling about this aussi.
Oui.
Bon.
Star Wars pour les nuls.
Ben écoutez, je pense que si personne n'a plus rien à ajouter, on va conclure cette émission. Comment?
Non, on dit Grèce.
Ah, Grèce.
Vous voulez que quelqu'un rebondisse? Ah, voilà, merci.
Voilà. Ben écoutez, merci très cher cadet d'avoir participé à ce regardage, cette review sur The Wrath of Khan. Merci beaucoup, Sean, d'être venu parmi nous participer. Tu es le bienvenu quand tu veux.
Souci.
Et merci, Dragor, de ta présence habituelle et de grâce à toi, il y a beaucoup de rebondissements qui se font. C'est très bien. Je
suis le trampoline de l'émission.
qui veut son ticket pour lui sauter dessus. Allez,
non, par contre, je vais bien
rebondir là-dessus.
J'ai pas entendu Renaud. Charles, tu as dit quelque chose.
Bah, ticket, je m'en fiche. Par contre, mon chèque, je le veux toujours.
Oh, putain. Il y a trois gimmicks dans cette émission. On a Dragor qui met un tacle à Star Trek 2009. Charles qui parle de Dragon Ball Z et le fameux chèque de l'émission qui débarque. On a fait les trois. Merci à tous
toutes mes excuses à tous les gens qui ont participé à Star Trek 2009.
Tu n'as pas à t'excuser d'être un gros connard. Ne t'en fais pas. J'espère que, très chers auditeurs et auditrices, vous avez passé un très bon moment. Nous, on s'est éclatés, comme d'hab. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Noobtrek, Nultrek ou Nultrek, à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. À très bientôt pour Star Trek Into Darkness. Bonne soirée.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Star Trek pour les nuls.
Il a réussi la fin, bravo.
Ouais. Et maintenant on va tout gâcher en disant n'importe quoi.
J'ai pas lancé le générique, attention.
Avec votre esprit.